Salut Raphaël.
Ah, Claude.
Alors, la chicane a recommencé. Ben, remarque qu'elle n'a jamais vraiment cessé complètement, mais entre la Maison-Blanche et les scientifiques qui s'occupent de la COVID.
Oui, et c'est intéressant parce que lorsqu'on parle de, entre guillemets, la communauté scientifique, là, souvent on pense à une espèce de bloc monochrome. Ah, c'est pas aussi simple que ça. Surtout lorsqu'il est question de quelque chose d'aussi, écoute, relativement nouveau là, que le coronavirus. Parce que il y a différents scientifiques qui, même s'ils s'entendent sur plusieurs points, peut-être même la grande majorité des points, peuvent aussi diverger sur certains autres. Et la raison pour laquelle je te mentionne ça en ouverture, c'est que la Maison-Blanche, on le sait, a deux scientifiques principaux qu'elle met de l'avant depuis le début de la crise, Anthony Fauci et Deborah Birx. Et les différences entre les deux à la base peuvent paraître très subtiles, mais il y en a eu depuis le début. J'avais notamment parlé à l'émission il y a quelques mois du fait que, par exemple, sur la question de comment compter les morts de la COVID-19 aux États-Unis, le Dr Fauci, lui, croyait que le décompte sous-estimait le nombre réel de décès. La Dr Birx, elle, croyait que, au contraire, on surestimait le nombre de morts. Donc, c'est pas pour rien que le Dr Fauci est surtout celui qui s'est attiré les foudres du président Trump, parce qu'il est vu par Trump comme, en guillemets, empirant l'image de la crise.
Ouais.
Mais c'est rendu, Marc-Claude, tellement polarisé, tellement toxique aux États-Unis qu'on est rendu à un stade où là, l'opposition politique au président en est à dépeindre l'autre docteur, donc la docteur Birx, comme étant essentiellement la porte-parole de Donald Trump parce qu'elle a l'air de, entre guillemets, mieux s'entendre avec lui. Et donc, je veux qu'on écoute ensemble ce que Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, avait à dire à la télévision nationale américaine au sujet de la docteur Birx.
The president is spreading disinformation about the virus, and she is his appointee. So I don't have confidence there. No.
Elle n'a aucune confiance en Mme Birx parce qu'elle dit qu'elle est comme la porte-parole de Trump.
C'est ça. Et donc, suite à la sortie de Mme Pelosi qu'on vient d'entendre, la Dr Birx donne une autre entrevue à la télévision nationale dans laquelle elle déclare que le virus est, et je la cite, « extrêmement répandu aux États-Unis et que personne n'est à l'abri ». En voyant ça, comment est-ce que tu penses que Donald Trump réagit?
Ben, il dit que c'est de la faute de Nancy Pelosi.
Exactement. Et donc, je cite un magnifique tweet matinal du président des États-Unis, « Crazy Nancy Pelosi », parce que c'est comme ça qu'il la surnomme, Nancy Pelosi,
la folle.
Quel manque de respect. A dit des choses horribles sur la docteure Deborah Birx, et en guise de réponse, Deborah est tombée dans le piège et nous a attaqués. Pathétique, point d'exclamation, fin du tweet. Tout ça pour t'illustrer une chose, Marc-Claude, tout est rendu politisé aux États-Unis et c'est toxique.
Et moi, j'ajouterais que c'est de la sale politique.
Ah, absolument.
C'est pas un niveau de politique auquel on a été habitué et c'est pas, moi, d'entendre des gens se faire traiter de fou, de se faire traiter de Pocahontas, de se faire traiter comme ça. Te souviens-tu quand il s'était moqué aussi d'un handicapé
évidemment,
physique, un journaliste?
En 2016.
Il avait nié que, ben, écoute, il imitait quelqu'un qui fait de la paralysie cérébrale. C'était d'un manque de respect profond. Raphaël, on est à 3 mois de l'élection présidentielle. Est-ce que les attaques de Trump face à l'équipe Biden portent fruit?
Ben, c'est intéressant parce qu'il y en a plusieurs qui sont encore fixés sur le fait que Joe Biden a des failles comme candidat et que tôt ou tard, une masse critique d'Américains va se rendre compte qu'il est juste pas apte à être président. Et quand ce moment magique-là va arriver, ben, ça va le vent va tourner et là, Donald Trump, presque miraculeusement, va s'emparer d'une avance dans la course dont il a jamais joué depuis le début de la course. Le petit problème avec ça, Marc-Claude, c'est que premièrement, comme je t'ai dit à plusieurs reprises, les élections avec un président sortant dans l'histoire américaine ont toujours d'abord servi de référendum sur le président sortant et non de choix entre le président et son adversaire. Mais il y a aussi ceci, c'est que même si ces élections-là servent surtout de référendum, ça ne veut pas dire que la campagne du président peut absolument rien faire pour essayer de définir son adversaire. Tu sais, l'exemple le plus récent que je peux te donner, en fait, c'est la dernière campagne qu'on a eue avec un président sortant, c'était celle de 2012. Et tu te rappelleras peut-être, l'équipe Obama avait été hyper précise, hyper habile pour définir l'adversaire de M. Obama cette année-là, c'était Mitt Romney. Et on l'avait dépeint comme un plutocrate, comme quelqu'un qui était déconnecté de la vie des gens ordinaires. Ça avait été le même message, semaine après semaine après semaine, pendant tous les mois qui avaient précédé les conventions des deux partis et les débats, et ça avait porté fruit. Là, cette année, c'est quoi le message exact de la campagne Trump contre Joe Biden? On a à peu près essayé tout. Dire que c'est une créature de Washington, que son fils est corrompu.
Dire qu'il est sénile.
Sur la Chine. Et là, c'est ça. Dire qu'il est sénile, ou tout au moins laisser entendre qu'il est sénile, qu'il a des problèmes cognitifs. Ça manque de focus et surtout, Marie-Claude, ça manque d'impact. Là, il reste 3 mois, tu l'as dit toi-même, jour pour jour. Dans 2 semaines, jour pour jour, c'est le début de la convention démocrate. C'est parce qu'à un moment donné, là, du temps pour définir M. Biden de façon négative, le compte de la campagne Trump, il en reste moins qu'on pense. Et plus ça avance, plus le scrutin se rapproche. Donc, je pense que ça valait la peine de faire le point, encore une fois, à 3 mois du vote.
Bon, et le point, de nouveau, on en a parlé la semaine dernière. Moi, la seule chose dont je veux qu'on parle aujourd'hui, si tu veux, qu'on rajoute là, sur le problème du vote par la poste, c'est ce que j'ai lu durant le week-end. C'est-à-dire que le président serait ami avec le grand responsable des postes aux États-Unis et lui aurait demandé de s'arranger pour que les postes ralentissent.
Rien de moins. Donc, il y a ça.
Écoute, ça passerait pas là, ici. Là.
Ben, ça devrait pas passer, Marc-Claude, normalement aux États-Unis non plus. Tu sais, je veux dire, on n'est pas dans quelque chose de normal. Et là, tu parles de liens amicaux, ou en tout cas de liens professionnels peut-être induits. Je vais te lancer également ceci. Pense à toutes les batailles juridiques qu'on risque d'avoir, qu'on a déjà en fait, mais qu'on risque d'avoir en s'approchant du 3 novembre. Je te donne un exemple. Qu'est-ce qui arrive si un bulletin de vote est mallé avant le 3 novembre? Mais qui est reçu après le 3 novembre. Est-ce qu'on le compte? Les démocrates disent oui. Les républicains disent non. Et donc, imagine le scénario suivant, Marc-Claude. On s'en parlait vendredi. Je te disais à quel point c'était très documenté que les gens qui s'enlignent pour voter par la poste sont nettement plus susceptibles de voter démocrate. Qu'est-ce qui arrive si on se couche le soir du 3 novembre et que Donald Trump a une avance, peut-être même une très large avance, parce que les votes par la poste n'ont pas encore tous été comptés. Mais qu'au fil des jours et des semaines, cette avance-là rapetisse, et mi-novembre, on annonce que le président des États-Unis, finalement, a perdu.
Qu'est-ce que tu penses
qu'on va avoir comme réaction?
Ça compterait, dans le sens que si ce n'est pas rentré pour le 3 novembre, j'ose espérer... Ben, en même temps, qui va pouvoir le dire que les bulletins de vote ne sont pas tous rentrés? Ça ne se saura pas.
Il y a ça. Et il y a aussi la question de qui on croit et de toutes les contestations judiciaires après coup. Écoute, on est déjà dans des batailles judiciaires avant le vote.
En terminant, Raphaël, tu penses que c'est pas possible pour les démocrates de faire quelque chose pour du côté du directeur des postes puis de dire non, écoutez, là, c'est pas vrai, là, vous allez faire du temps supplémentaire, vous allez faire ce qu'il faut pour que la poste fonctionne. Je te dis, je viens fâché.
Il va falloir qu'on s'en reparle demain, ma chère.
on va s'en reparler, certain. Ça, j'en reviens pas. Allez, merci beaucoup, Raphaël, Jacob, bonne soirée à toi. On s'arrête. C'est déjà l'heure des nouvelles. On revient avec nos chroniqueurs après.